libre débat. Reportage plateau radio ou son glané sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. Tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4.
Voral.
Voral.
Voral, les archives orales.
Voral, les archives orales.
Hi, bienvenue dans Voral, la deuxième émission des archives orales, issue de l'association Mémoire des sexualités. Mémoire des sexualités travaille sur la préservation et la mise en avant de l'histoire LGBT et queer et met à disposition un fonds documentaire, organise des débats publics et participe à la construction du mouvement LGBT. Cette année, Mémoire des sexualités déménage dans un nouveau local. Une phase de travaux est en cours. Aujourd'hui, les mêmes protagonistes que pour la dernière émission pour vous parler d'actualité politique, nationale, d'organisation de mobilisation sur une cérémonie mémoriale à Marseille, un retour sur le qualitatif festival Transgaze et puis une nouvelle chronique de la musique et des surprises, parce qu'on est incroyable.
Alors, bonjour et bienvenue dans Voral. Donc aujourd'hui, on s'était dit qu'on allait commencer par vous faire un petit retour de spectatrice sur le festival Transgaze. Alors qu'est-ce que c'est que ce festival Transgaze ? Bah, c'était une semaine de la visibilité trans qui a eu lieu au Vidéodrome 2, un petit cinéma associatif. C'était quand ? C'était la semaine du 31 mars, en fait du 27 au 31 mars, très exactement. Et donc l'idée derrière tout ça, c'était d'avoir une semaine de programmation entièrement consacrée à la visibilité trans, avec des projections, des conférences et des discussions, afin de célébrer le regard particulier qu'ont les cinéastes, artistes, curatrices, militantes et chercheuses trans sur le monde. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de gaze ? C'est un mot-clé qu'on pourrait expliquer, puisqu'on va un peu expliquer des mots-clés aujourd'hui dans Voral, parce que ça fait partie aussi de la tâche d'archiviste, quelque part, c'est aussi de partager les termes. Alors le gaze, comme vous l'avez peut-être compris, c'est un mot anglais, qui en fait veut dire regard porté sur un sujet. Donc... À la base, on parle, surtout dans les études féministes, on parle des représentations sexistes et transphobes au cinéma, en parlant notamment du male gaze ou du cis gaze, donc c'est-à-dire le regard masculin ou le regard cisgenre sur les choses. Donc là, avec ce festival Transgaze, l'idée c'était de retourner les choses et d'avoir le regard trans sur le monde et sur les choses. Toi, tu es allé, dis-moi, à Transgaze ?
Moi, je suis allé voir deux séances, ouais. J'ai commencé par la super performance en réalité augmentée de Claudix Van Essix, qui s'appelait Non-Fuckable Tokens, et qui s'est suivie d'une discussion assez technique, mais passionnante, sur l'approche quantique de la non-binarité, qui était animée par Selva Gonzalez.
Waouh, l'approche quantique de la non-binarité.
Oui, c'était intense. On s'est fait fucker le cerveau. J'ai aussi assisté à une cool séance de court-métrage post-porn, où même si je trouvais dommage qu'après des décennies de militantisme sur le consentement, la moitié des courts-métrages n'aient pas de dialogue, j'ai quand même pu voir des petites perles comme Up Uranus de Tara Imori, dans une salle hilar à majorité trans, et c'était vraiment très doux.
Eh ben moi j'étais à pas mal de choses de cette semaine-là, mais ce qui m'a pas mal marqué par rapport au sujet de notre émission, donc les archives, c'était la séance du dimanche organisée en collaboration avec l'association Genre de lutte. Donc c'était en fait des morceaux choisis dans leurs archives vidéo Et on a pu voir des choses assez surprenantes, parce que c'est normal, avec le temps, ben, certaines vidéos, certains termes notamment, ben, vieillissent un peu mal, mais ça fait partie de nos histoires, c'est comme ça. Et par exemple, ça a commencé avec une vidéo très surprenante du CCL, donc le Centre du Christ Libérateur, quand même, ça annonce déjà quelque chose d'assez intéressant. Donc c'était un pasteur, le pasteur Doucet, à l'époque. Donc je pense que, je me rappelle pas exactement des dates, mais je crois que c'était fin 70 peut-être, années 80, quelque chose comme ça. Et donc lui, il organisait une sorte de groupe de paroles et de moments de sociabilité pour les travestis et leurs amis. Bon, avec les termes de l'époque, bien sûr. Donc peut-être aujourd'hui on dirait femme trans, mais en tout cas à l'époque on parlait plutôt de travesti par exemple. Et ensuite il y avait une vidéo assez chelou aussi d'une esthéticienne transgenre, enfin on dirait maintenant transgenre en tout cas, qui certainement à l'époque elle se disait plutôt transsexuelle, qui était en fait une ancienne résistante. Et donc grâce à ses accointances à la préfecture de Paris, si j'ai bien compris, elle avait réussi à avoir une sorte de carte d'identité trans. Pour les personnes qui avaient des problèmes d'accès à l'emploi notamment, eh ben, elle leur proposait une petite carte d'identité qui allait faciliter un peu les choses. Et ensuite, il y avait un spot de l'association Le Syndrome de Benjamin qui voulait, d'après ce que j'ai compris, expliquer les transidentités aux personnes cisgenres, donc avec des prises de vue sur des pâquerettes et des choses comme ça. C'était
un peu le transat de l'époque.
Oui, c'est ça. Mais du coup, on ne savait pas trop s'il y avait de l'ironie dans la présentation ou si c'était très sérieux. Mais ce qui était intéressant, c'était qu'on retrouvait des militants, militantes de ce groupe-là dans la vidéo suivante, mais dans le cadre d'une action beaucoup plus coup de poing pour le coup. Donc on se demandait un peu si les gens n'étaient pas un peu devenus un peu plus vénères au fil du temps, parce qu'il y avait de quoi, n'est-ce pas. Et donc les images qu'on voit ensuite, c'est du groupe activiste trans qui s'appelait donc le GAT. Et là c'est un ZAP. Donc qu'est-ce que c'est qu'un ZAP? Vous savez vous ce que c'est qu'un ZAP?
Non, c'est quoi un ZAP?
Je suis sûr que vous mentez et que vous savez, mais on va quand même vous expliquer, parce que ZAP, ça fait quand même partie de notre histoire. Donc un ZAP, c'est en gros une action militante, collective et souvent symbolique, qui consiste à monter sur la scène d'un colloque transphobe, par exemple, pour l'interrompre en scandant des slogans, en déroulant une banderole, etc. Et l'objectif recherché, c'est la visibilisation d'un problème et d'un point de vue politique dans l'espace public, voire dans les médias. Donc bien sûr, c'est quelque chose qui va être intéressant et utilisé par les minorités de genre, les minorités sexuelles, ethniques aussi, et notamment par les transpédéguines séropos dans nos histoires. Voilà, donc ça c'est les ZAP. Donc il y avait une vidéo d'un ZAP également, entre autres. Donc c'était vraiment une super séance, vraiment merci à Genre de Lutte d'avoir organisé ça.
Et merci à toutes les personnes qui ont été dans l'organisation de Transgays et qui nous ont vraiment offert une semaine de programmation incroyable.
Oui.
Et on espère de tout cœur que c'est pas un one shot et que aussi l'occasion se représentera de nous régaler l'année prochaine pour une semaine de la visibilité trans qui nous célèbre au-delà des tweets et des gestes opportunistes des personnalités qui nous soutiennent une fois par an. N'oublions pas que l'enjeu de la visibilité trans pour les personnes concernées, il est quotidien et pas nécessairement positif. À l'heure où les débats réactionnaires s'emparent de nos images et fabriquent les discours destinés à nous priver de nos droits, à l'image actuelle, trop actuelle, de la proposition de loi 435 ayant pour but de mettre en place des thérapies de conversion pour les mineurs trans et d'interdire leur transition.
Oui, bien dit, bien dit. Et si Genre de Lutte, ça vous intéresse, donc c'est une association qui a pour objectif la création d'un fonds d'archives et d'un centre de documentaire trans à Marseille, donc sur les luttes trans, la transphobie et les transidentités. Et on peut consulter leurs fonds sur rendez-vous. Donc vous pouvez écrire à Genre de Lutte avec des S partout, @gmail.com. Et elles ont aussi un compte Instagram, genre-de-lutte. /lutte. Vous allez les trouver de toute façon, je vous fais confiance.
Et oui, vous n'êtes pas des boomers comme nous, ça va bien se passer.
On enchaîne sur la top 50.
La top 50 de ta vieille tante, bien sûr.
La top 50 de ta vieille tante.
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 Bon, ben, la top 50 de ta vieille tante.
rebonjour tout de suite. On a mis fin à Patrick Collier. Brutalement. On est à l'antenne. Et rebonjour, nous avons mis fin un petit peu brutalement à Patrick Collier, mais nous voilà pour la top 50 de ta vieille tante. Et pour cette édition, on revient, on bouscule déjà les habitudes de nos auditeurs, auditrices, car nous revenons sur un format déstructuré de la top 50 de ta vieille tante. Nous n'allons pas parler de plusieurs sons et de plusieurs artistes en même temps, mais nous allons, au fil de l'émission, évoquer des morceaux, des artistes LGBTQIA+, qui ont marqué le temps et construit l'histoire politique et musicale de nos communautés. Alors, pour commencer, le son qu'on vient d'écouter vient d'un compositeur et pas des moindres, Patrick Cowley, égérie de l'underground disco tardif, décédé du sida en 1982 à l'âge de 32 ans. Le magnifique jingle que vous avez pu écouter en début d'émission a été aussi composé par Patrick Cowley et s'appelle
Sea Hunt.
Sea Hunt, thank you baby. Patrick Cowley, il est le cofondateur de la High Energy, un genre de musique électronique émergé en 1981 à San Francisco, en Californie. La High Energy, elle se popularise à cette époque-là dans de nombreux clubs. Alors à San Francisco, en Californie, à ce moment-là, de nombreux DJ deviennent musiciens avec l'introduction d'un nouvel objet fascinant, le synthétiseur, avec lequel on apprend à bidouiller des sons jusqu'ici pas si simples à fabriquer dans sa chambre. La High Energy, c'est donc un peu l'évolution du disco en mode synthé avec accélération du tempo. Et dans la scène club plutôt états-unienne de cette période-là, beaucoup de DJ qui s'en emparent font partie de la scène gay. Patrick Cowley va donc devenir un personnage important de cette mouvance-là. Ce qu'on a choisi pour le jingle donc, que vous avez entendu, c'est Sea Hunt. Ça a été composé en 1981. Et vous apprécierez l'ambiance mouette de la côte ouest des États-Unis, qui n'est pas sans nous rappeler les gabions marseillais. J'aurais bien aimé vous le proposer de l'écouter, mais on vient de le faire. Du coup, nous continuerons à écouter et à se renseigner sur d'autres artistes LGBTQ un peu plus tard dans l'émission, avec la suite de la top 50 de ta vieille tante. Sans aucune forme de transition, nous allons pouvoir passer à une actualité politique. C'est comme ça qu'on va faire, pour laquelle nous n'avons pas encore de jingle.
Mais on y va.
Nous y allons.
Actualité politique.
C'est parti.
C'est voral. C'est quoi, c'est politique?
C'est politique et c'est voral. On pourrait donc parler de beaucoup de choses dans les actualités politiques d'aujourd'hui, mais aussi parce que nous avons un invité spécial que vous n'allez pas tarder à découvrir.
Ouh là là, quel mystère.
L'actualité concerne aujourd'hui le projet de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982. Ce projet de loi vise la réhabilitation de la mémoire des victimes et l'indemnisation des personnes qui ont vécu différents actes de répression sur cette période-là. Il s'agit d'une proposition de loi plutôt symbolique, mais qui comporte aussi des limites. On rappelle qu'en France, l'homosexualité n'a été dépénalisée qu'en 1982. Bon, à ce sujet, mais je vous conseille un petit Les Pieds sur Terre de France Culture qui s'appelle Quand l'homosexualité était un crime, dans laquelle on entend des victimes encore vivantes témoigner de la répression qu'ils ont vécue à leur époque. Par ailleurs, au sujet des questions et des limites que soulève cette loi ou cette proposition de loi, il y a le réseau Bictata qui a signé une tribune qu'on trouvait intéressant de vous lire, justement en préparation des débats à l'Assemblée autour de cette loi. Bictata, en deux mots, c'est un réseau francophone qui a été créé autour de 2022, qui réunit différents centres d'archives, de documentation et de bibliothèques queer LGBT. Je vous lis ce communiqué de ce pas. Nous, centres d'archives et bibliothèques LGBTQIA+, du réseau interassociatif Bictata, déplorons la décision du Sénat d'adopter le 22 novembre 2023 une version amoindrie et vidée de sa substance de la proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982, déposée par le sénateur Hussein Bourgi. L'Assemblée nationale examine aujourd'hui, mercredi 6 mars, la loi en première lecture. Nous appelons les députés à la rétablir dans sa totalité et à soutenir des réparations collectives en faveur des politiques mémorielles, des archives et de la recherche LGBTQIA+. La réduction des bornes temporelles du texte initial est inacceptable. Elle fait sortir du périmètre de la proposition de loi la période 1942-1945 au motif que la République française ne pourrait être tenue responsable des fautes commises par le régime de Vichy. Pourtant, les deux républiques suivantes se sont appuyées sur cette législation et l'ont même aggravée en 1960 en classant l'homosexualité parmi les fléaux sociaux. Effacer cette continuité historique serait un signal préoccupant à l'heure où les idéologies fascistes d'extrême droite prospèrent et trouvent des débouchés politiques auprès d'héritières et d'héritiers directs de régimes collaborationnistes dont une partie siège au Parlement. Par ailleurs, la suppression par le Sénat des réparations prévues de 10 000 euros par condamnation et de 150 euros par jour de détention est un non-sens dans le cadre d'une loi mémorielle de reconnaissance d'une faute de la République française. Nous n'avons pas besoin d'une reconnaissance qui ne serait que symbolique et nous ne voulons pas d'une telle loi. Les réparations prévues initialement par l'article 3 de la proposition de loi doivent être rétablies et des moyens substantiels doivent être alloués pour chercher et identifier les bénéficiaires éventuels comme cela s'est fait dans d'autres pays. Le montant de ces réparations, malheureusement uniquement individuel, sont modiques et supportent mal la comparaison. Pour rappel, l'Espagne, pionnière en la matière, a voté 2 millions d'euros en 2008, l'Allemagne 30 millions en 2016, le Canada 100 millions de dollars en 2017. Je vais tousser, excusez-moi. Let's go. Nous demandons des réparations individuelles et collectives à la hauteur de ces exemples internationaux qui démontrent une véritable reconnaissance des préjudices subis. Cette proposition de loi doit garantir une reconnaissance et des réparations pour l'ensemble des communautés LGBTQIA+, et des travailleurs et travailleuses du sexe. Malgré la disparition du crime de sodomie dans le code pénal adopté au lendemain de la Révolution française, tout un appareil répressif à la fois législatif, réglementaire, administratif, judiciaire, médical et policier vise non seulement les homosexuels mais aussi les lesbiennes, les prostituées, les personnes trans et intersexes. Ces lois et réglementations ne sont pas prises en compte dans le texte actuel. Nous demandons la constitution d'une commission scientifique et culturelle indépendante, dotée de moyens à la hauteur pour construire des politiques mémorielles LGBTQIA+, justes. Les travaux de cette commission devront notamment établir l'étendue de l'impact structurel des lois et des règlements discriminatoires de l'État à l'encontre de l'ensemble des personnes concernées et des travailleuses du sexe depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. Cette proposition de loi doit garantir une reconnaissance et des réparations pour l'ensemble des communautés LGBT malgré la disparition. Pardon, je me suis emballé les pinceaux. Nombreuses sont les réparations collectives à l'étranger qui ont permis un travail de mémoire et une transmission de cette histoire commune à l'ensemble de la société. Les centres d'archives LGBTQI+, accessibles à toutes et tous, sont des lieux de mémoire vivante qui proposent quotidiennement des expositions, conférences, résidences d'artistes, projections. Ce sont des acteurs clés de la lutte contre les discriminations LGBTphobes. En Allemagne, les 10 millions d'euros de dotation ont permis la création de la fondation Magnus Hirschfeld pour compenser les pertes de la communauté LGBTQIA+, subies pendant le régime nazi. Il est aujourd'hui nécessaire que la France prenne des engagements similaires en allant vers une réparation collective des préjudices portés à la communauté LGBTQIA+ française. Nous demandons aussi un financement pérenne et significatif des centres d'archives LGBTQIA+ pour nous aider à retrouver la mémoire.
Donc on voudrait 10 millions, s'il vous plaît.
Voilà, vite. 10 millions, c'est pas assez, comme on dit.
Et bien, merci pour ce texte.
Ouais, merci.
Ouais, merci aux captures d'écran mal organisées dans mon téléphone qui m'ont fait me mélanger les pinceaux. On est toujours boomer.
Mais personne s'en est rendu
oral.
Compte.
Ok, super.
Tout va bien.
Et pour prolonger un peu ces réflexions sur comment on se souvient de cette période-là aussi et de quels sont les enjeux politiques actuels et aussi locaux d'ailleurs, qu'il y a à propos de cette période-là. On pourrait aussi parler des enjeux qu'il y a autour de la cérémonie du souvenir de la déportation, qui se tiendra d'ailleurs à Marseille le 28 avril à 9h derrière l'hôtel de ville. Pour en parler, on accueille aujourd'hui cet invité mystère qui n'est d'autre que Christian Deleus, un militant qui mène de front depuis plusieurs années une lutte pour l'inclusion et la considération de la déportation homosexuelle dans la cérémonie officielle du souvenir de la déportation. Bonjour Christian.
Bonjour.
Bonjour Christian,
bonjour,
bienvenue.
Christian, bienvenue.
Peut-être que je peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas cette chance. Tu as été militant dans les groupes de libération homosexuelle et partie prenante de l'organisation des premières universités d'été euroméditerranéennes des homosexualités à Marseille dans les années 80.
Aussi connues sous les UEH.
Les fameuses. Plus tard, à l'heure où le milieu militant se remet à peine des années sombres du sida, tu organises pendant les années 90-2000 de nombreux débats publics, parmi lesquels les salons de l'homosocialité, et tu continues à participer au présent à la construction du mouvement LGBT à Marseille. C'est aussi à toi qu'on doit la majeure partie des collections d'archives de mémoire des sexualités qui sont le résultat du travail de collecte que tu mènes depuis une quarantaine d'années. Pour finir, et c'est peut-être avec cette casquette-là que tu es parmi nous aujourd'hui, tu es aussi membre du conseil d'administration du mémorial de la déportation homosexuelle. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à la question
qu'on vient
à ton CV militant ?
Très volontiers. En tant que le président de l'association du mémorial des déportations homosexuelles, c'est justement le sénateur Hussein Bourgi qui a déposé cette proposition de loi. Et donc, j'ai eu l'occasion de le faire venir à Marseille, il n'y a pas si longtemps, au centre LGBTQIA+. Il est venu présenter ce projet de loi, cette proposition de loi, et il y avait beaucoup de monde. C'était peu après que le Sénat ait voté partiellement. C'était une petite victoire, mais comme on vient de l'expliquer, Big Tata l'analyse, un certain nombre d'éléments ont disparu. Mmh. Et notamment ce problème des années de Vichy, c'est-à-dire les années, pardon, du régime de Vichy, 42-85. Pourquoi les sénateurs s'amusent-ils à gommer ces années de répression en considérant qu'il n'y a pas à les prendre en compte. C'est insupportable. Jacques Chirac lui-même, président de la République, avait reconnu la responsabilité de l'État français, de l'État français mmh. d'aujourd'hui, de la nation, à l'égard de ce qu'on appelait, ce qu'a été le gouvernement de Vichy, qui se prétendait État français, justement. Donc, désormais, on reconnaît, la République reconnaît l'existence de Vichy et doit reconnaître que les incapacités des institutions françaises pendant toute cette période qui s'est inclinée devant le régime nazi sont la responsabilité de la France. Voilà. Et donc, il faut prendre en compte ces années. Malheureusement, pratiquement... nous n'avons aucun déporté qui s'est signalé, qui s'est fait connaître. Et il y a des tas de raisons à cela. D'abord parce qu'en tant que déportés, ils ont peut-être disparu. Deuxièmement parce que c'était tellement humiliant de reconnaître son homosexualité quand on avait été déporté en vertu d'une loi toujours en vigueur. C'est ce qui s'est passé en particulier en Allemagne avec le paragraphe 175, qui était un paragraphe ultra répressif, plus répressif encore que chez nous. Donc les déportés ont mis du temps à se signaler. Tant et si bien que le seul déporté homosexuel français dont on a connu l'existence que dans les années 80 avait entre-temps... était entré dans la normalité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il s'était marié, il avait eu des enfants, etc., etc. Et son épouse lui avait fait promettre de ne jamais dire qu'il avait été déporté pour homosexualité.
Peut-être que tu
Pierre Selle. Voilà.
Et d'ailleurs, Pierre Selle est lié à l'histoire de l'émergence du mémorial de la déportation homosexuelle à Marseille.
Tout à fait, tout à fait. Merci pour la transition. C'est-à-dire que le journaliste Jean Lebitou, qui était fondateur du journal Guépier, a, dès le début des années 80, grâce à des messages désespérés qu'envoyait Pierre Selle, découvert l'existence de ce déporté homosexuel méconnu et a réalisé avec lui un ouvrage, un livre, qui s'appelle « Moi, Pierre Selle, déporté homosexuel ». Et à la suite de ça, il y a eu la création de l'association du mémorial de la déportation homosexuelle.
Parmi les revendications du mémorial, notamment cette année, Donc moi j'ai vu qu'il y avait prendre en compte la mention et la représentation des différents triangles dont étaient marqués les déportés. Du coup, visibiliser les triangles roses des déportés pour motif d'homosexualité. Et aussi l'intégration des homosexuels dans la gerbe commune déposée pendant la cérémonie du souvenir.
Est-ce...
Est-ce que tu pourrais un peu nous parler plus du cérémonial qui entoure ce moment de commémoration et expliquer un peu comment ces revendications elles s'inscrivent dans ce cérémonial-là.
Et comment elles ont émergé. Il faut un petit point d'histoire, c'est-à-dire que en 95, presque en même temps que Jean Lebitou à Paris est allé déposer la gerbe des homosexuels en reconnaissance de la déportation, à Marseille, j'ai pris l'initiative avec les quelques associations gays et lesbiennes, comme on disait à ce moment-là, on a pris l'initiative de venir déposer la gerbe. Mais on a été exclus de la cérémonie officielle pendant toutes les années de 1995 à 2010. En 2010, j'en ai eu tellement marre d'être ainsi exclu de la cérémonie officielle, puisqu'on venait déposer une gerbe après, mais personne ne s'en rendait compte, qu'on a obtenu de la HALDE, à l'époque c'était la HALDE, aujourd'hui ça s'appelle le Défenseur des droits, qu'une admonestation, entre guillemets, soit faite auprès du préfet des Bouches-du-Rhône pour dire que c'était pas normal. Donc le préfet des Bouches-du-Rhône est arrivé à imposer aux associations d'anciens combattants, déportés, internés, résistants, qui jusque-là déposaient une gerbe dans la cérémonie officielle, d'accepter que nous soyons, nous aussi, intégrés à cette cérémonie. Donc, entre 2010 et maintenant, nous sommes intégrés à la cérémonie, mais avec notre propre gerbe, comme si nous étions en réalité, on peut dire, beaucoup de gens nous le disent, « Ah, c'est très bien, vous êtes intégrés, vous, les homosexuels. » Mais moi, au bout de 10-15 ans, je l'analyse pas du tout comme ça. C'est-à-dire que je constate que, en réalité, on nous offre la portion congrue. Pourquoi ? Parce qu'il existe une gerbe de l'ensemble des associations et nous ne sommes pas membres, nous ne sommes pas intégrés à cette gerbe. Et quelque part, ben, nous sommes mis de côté.
Une pièce rapportée un petit peu.
Voilà. On est. Bon. Et du coup, l'année dernière, profitant du fait qu'il y avait eu un changement de municipalité, en me disant peut-être qu'avec le soutien de la nouvelle municipalité, on pourrait demander un peu plus. Et donc, dès l'année dernière, j'ai commencé à me battre pour obtenir qu'on soit pris en compte dans la gerbe. On m'a tout de suite répondu « Non, non, il est hors de question, on n'en est pas là, etc. » J'ai présenté en même temps une deuxième revendication, qui est de dire « Il y a un monument, mais il n'y a aucune pédagogie qui est faite autour de ce monument, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles ont été les déportations. Qu'est-ce que c'est que les déportations ? Au bout d'un moment, on croit qu'il n'y a eu que la Shoah, ce qui est bien légitime. La déportation des Juifs, c'est quelque chose de colossal, de considérable et d'infiniment respectable. Donc, mais en même temps, on oublie que plusieurs catégories ont été cataloguées par les nazis pour les déporter. C'était les communistes, c'était les francs-maçons, c'était les asociaux. Et dans les asociaux, on mettait tout et n'importe quoi, en particulier des fous et des LGBT.
Des lesbiennes, notamment.
Des anarchistes aussi.
Des transphobes, etc. Les résistants ont été déportés, bien sûr. Et puis, il y a ceux qui n'ont même pas droit à un triangle, les handicapés. Ils n'étaient même pas reconnus dans la déportation. Pourquoi ? Parce que les nazis, ils avaient une autre solution. Ils les éliminaient avant. Bon, que je pense en particulier aux malades mentaux. Et à personne qui était handicapé d'une façon ou d'une autre. Ils n'étaient pas récupérables par rapport à la virilité et à la construction de l'homme nouveau nazi.
Est-ce que tu peux nous parler un peu des formes de résistance que toi tu as rencontrées de la part soit des associations, soit des institutions pendant... Quelles formes elles ont pris ces résistances-là dans le temps ?
Tout à fait. Et cette résistance, déjà je l'ai sentie dès 2010, lorsque... La représentante en chef, si je peux dire, sous prétexte qu'elle avait été déportée quand elle était bébé, elle était considérée comme l'une des déportées vivantes en France, qui a dit en 2010 les homosexuels n'ont pas existé. D'ailleurs, de toute façon, ils n'ont pas de descendance. Ça ne peut être que des gens qui se prétendent leurs amis, qui viennent proposer. Elle a fait une déclaration qui était quasiment homophobe. Bon. Dès
2010,
pense qu'on
peut dire qu'il était clairement homophobe. Qui était dans la négation de toute forme de construction familiale autre que la famille biologique des personnes queer, et c'était clairement homophobe.
C'est ça. Et donc, depuis 2010, on était sur cette situation où rien ne bougeait. Pourquoi ? Parce que la personne en question, qui devait avoir 75 ans à ce moment-là, ou 70, je ne sais pas, avait dit ça. Bon. Et tout le monde s'inclinait. Comme elle avait été une ancienne déportée quand elle était petite, tout le monde s'inclinait parce qu'il n'y avait plus de déportés. Enfin, il y en avait de moins en moins. En tout cas, ils n'avaient pas droit à la parole. Ils la laissaient travailler. L'année dernière, quand j'ai déposé cette demande que je viens de dire, c'est-à-dire sur les triangles et sur la gerbe, j'ai commencé à ruer dans les brancards, bon, en tant que délégué du mémorial de la déportation homosexuelle. Il y a eu un certain soutien autour de moi, mais en même temps, les gens ne comprenaient pas tous. Ce n'est pas facile à comprendre, ça devient un peu technique, ce problème. Donc cette année, par contre, j'ai pris le mort aux dents. Je suis beaucoup plus soutenu par le milieu LGBT marseillais en particulier. Je pense à la Pride de Marseille, au centre LGBT. On prend le mort aux dents et on dit ensemble, les déclarations qui ont été faites en 2010, on les ressort et on rappelle que des propos homophobes ont été tenus et que rien n'a été changé depuis en ce qui concerne le dépôt de gerbe. Donc nous sommes toujours marginalisés. D'autre part, en ce qui concerne les triangles, c'est une autre question. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à une réunion en préfecture l'année dernière, enfin 15 jours avant la cérémonie de la déportation, et je me suis trouvé, évidemment, en face de la présidente du CRIF, c'est-à-dire des institutions juives de Marseille. Et elle était un peu indisposée dans un premier temps par cette réclamation. Mais comment ça, la déportation, il n'y en a eu qu'une? Enfin, elle ne l'a pas dit comme ça, mais enfin, c'est ce que ça sous-entend. Vous êtes des marginaux, vous mettez en cause la masse des déportés juifs. Enfin, ça sous-entendait ça. Donc je l'ai pris avec pédagogie. J'ai dit, mais non, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que, bien sûr, la déportation des Juifs est majeure. Mais aussi, regardons bien, il y a eu un certain nombre d'autres catégories qui ont été déportées. C'était une façon de dire, je ne viens pas là pour défendre les homosexuels. C'était pour dire, regardons toutes les catégories. En quelque sorte, les homosexuels se grandissent à défendre toutes les autres marginalités, toutes les autres harcèlements, marginalisations qui peuvent exister. Donc nous demandons que l'ensemble des triangles soient représentés. Ça me paraît une revendication bien pas très révoltante. Pas très,
de base.
Et bien légitime.
Pas très dure, mais...
Ben, merci beaucoup Christian
pour ton témoignage
oui.
Et ta lutte quotidienne.
Et je voulais rajouter aussi qu'un peu dans la droite ligne de l'invisibilité lesbienne, il y a aussi un travail de reconstruction et de recherche historique pour retrouver la trace, l'histoire des lesbiennes déportées qui a été un peu entamée là, ces dernières années. Parce que souvent, comme tu le disais, elles ont été déportées en tant qu'asociales ou en tant que prostituées, même si dans les registres des camps, on voit mentionner qu'elles sont lesbiennes. Et donc il y a une association qui s'appelle Queer Code, qui est basée à Montpellier et qui a fait tout un travail de mémoire avec une exposition qui s'appelle Constellation brisée, qui tourne un peu de ville en ville. Là, au début de l'année, elle était en Allemagne, à Heidelberg. Et donc ça retrace la vie de plusieurs femmes lesbiennes déportées de plusieurs pays. Et ça raconte un peu leur trajectoire de vie. Et ce collectif-là, Queer Code, je vous invite vraiment à aller voir leur site, parce que c'est un collectif très créatif qui fait vraiment toute une recherche sur comment rendre vivante l'histoire à travers plein d'outils, d'installations, etc. Donc c'est Queer Code.
Pour aller dans ce sens, effectivement, Queer Code, donc, dont l'animatrice est Isabelle Santis, que j'ai eu l'occasion de faire venir ici à Marseille à plusieurs occasions. Il y a une autre personne aussi, et elle travaille de plus en plus ensemble, que je vous recommande, qui est Suzette Robichon, qui vient de faire un travail remarquable avec l'exposition sur les homosexuels et lesbiennes déportées au mémorial de la Shoah à Paris l'année dernière, et qui vient de présenter une nouvelle configuration de cette exposition en Belgique. Et maintenant, il y a un cheminement. Les Allemands et les Allemandes sont beaucoup plus avancés sur ce sujet-là, parce qu'il faut dire que le paragraphe 175 était quelque chose de terrible pour les Allemands dans le territoire du Reich. Donc, les deux Françaises que je viens de citer, mais il y en a peut-être d'autres, Florence Tamagne et d'autres, travaillent davantage avec les Allemandes, justement sur ce continent noir. Des répressions à l'égard des lesbiennes et de toutes les autres catégories de LGBT d'ailleurs.
Bon, on va passer à la suite. Petit jingle peut-être, cher collègue de la régie.
Merci Christian pour ta présence. Merci Christian. Encore. Et on n'oublie pas le 28 avril à 9h, place de l'Hôtel de Ville, la cérémonie pour le mémorial de la déportation. We'll be right back.
la top 50, je vais jamais y arriver, la top 50 de ta vieille tante. On vient d'écouter un morceau dont je parlerai juste après, parce que là, moment de stupeur sur le plateau, on voulait relever un petit truc qui s'est passé par rapport à une expression utilisée par notre invité tout à l'heure. On voulait réagir un peu à chaud, voilà, parce que c'est ça aussi des archives, c'est des terminologies parfois qui changent, ou des expressions qui sont datées et maladroites et voire problématiques. Donc on voulait pas laisser passer et juste rebondir un peu.
Du coup, oui, c'est exactement ça. Ça peut arriver sur des questions un petit peu intergénérationnelles. Il y a des expressions qui deviennent qu'on n'a plus envie d'employer. On peut dire autre chose. Donc notamment, on avait envie de dire que l'expression continent noir ne fait pas référence au continent africain, mais c'est une vieille expression psychanalytique qui est apparue en 1926, qui évoquait pour Freud la vie sexuelle des femmes. Bon, on va pas s'étendre sur le sujet, on n'a pas spécialement envie que ça reste dans nos pratiques langagières. Du coup, on avait envie de faire un petit point pour les personnes qui nous écoutent.
Oui, étant donné tous les aspects problématiques de l'histoire psychanalytique et aussi l'histoire coloniale française, on va juste éviter d'utiliser cette expression. Donc on voulait rebondir là-dessus, mais on va repartir sur la top 50 de ta vieille tante. Est-ce qu'on peut réécouter le petit jingle, par exemple, en régie ou...
Si tu veux.
Non ? Oui ? Allez, allez. Parce qu'on l'aime bien, notre jingle, il est tout frais, tout beau.
La top 50. La top 50 de ta vieille tante.
La top 50 de ta vieille tante.
La top 50 de ta vieille tante.
Bon, ben, la top 50 de ta vieille tante.
Ah, moi, j'ai toujours envie de danser sur ce jingle de...
Ah, c'est kitsch, hein, c'est kitsch.
J'annonce top 50.
C'est kitsch. Alors, morceau numéro 2 de la top 50 de ta vieille tante aujourd'hui. On vient donc d'écouter le groupe Them Are Us Too avec le titre Eudaimonia. Et c'est un titre qui date de 2015, donc il n'est pas si ancien. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre? Déjà, c'est une forme d'hommage envers la chanteuse transgenre Cash Askew, qui faisait de la musique à Oakland en Californie et qui est malheureusement décédée en 2016, donc juste après la sortie de cette chanson. Elle avait seulement 22 ans et en fait elle est morte dans un incendie du lieu collectif le Ghost Ship lors d'une soirée de soutien où elle jouait, qui a fait 36 victimes. Alors pourquoi j'ai envie de... déjà j'aime beaucoup ce morceau et son travail, mais aussi parce que c'est pas par hasard qu'il se passe des incendies comme ça et qu'en fait c'est aussi un produit de la gentrification de la baie de San Francisco, aka also known as notre mec soi-disant pour toutes les personnes LGBTQI du monde entier, la baie de San Francisco, etc. maintenant est un lieu inhabitable pour les personnes queer et trans puisque c'est trop cher. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de lieu où faire des soirées de soutien? Et on joue dans des endroits pas aux normes. Alors c'est comme ça, c'est la vie. Donc ça peut être des squats, ça peut être dans ce cas-là, c'était en fait un entrepôt qui était utilisé pour organiser des soirées et qui était pas en état, et d'où l'incendie. Donc en fait c'est pas juste un incendie, c'est pas un accident, en fait ça vient aussi de politiques locales qui sont aussi des politiques qui finissent par être homophobes quelque part, puisqu'on nous donne pas de lieu pour faire nos activités et organiser nos luttes, et les lieux autogérés sont importants dans nos histoires. Voilà, on veut 10 millions et des endroits pour faire nos trucs. Et on va passer à la rubrique suivante, petites annonces.
Finally, petites annonces.
Petites annonces.
Petites annonces.
Petites annonces.
Petites annonces.
Aujourd'hui, on voulait vous présenter quelques petites annonces trouvées dans les magazines de mémoire des sexualités.
Mais qu'est-ce que c'est une petite annonce ?
Pour les générations Z qui sont nées avec Internet, Tinder et Snapchat, en fait avant il y avait les Minitel et les petites annonces.
Le Minitel, c'est cette petite boîte noire et cubique à l'écran gris un petit peu saturé dans lequel on pouvait trouver toutes sortes de ressources comme des services mais aussi des réseaux de personnes. On peut penser à 3615 LCM ou 3615 TBM.
Des personnes similaires à soi. Et on parle ici bien sûr des Gouines et des Pédales qui habitaient dans le bourg d'à côté. Avec le Minitel, on pouvait se raconter des histoires d'amour et des histoires de sexe, se donner rendez-vous dans le pâté de maison voisin ou chercher désespérément des camarades de jeu en terrain ami ou parfois hostile.
Mais encore avant le Minitel, il y avait les petites annonces. Et les petites annonces étaient ce format papier, doux et chaleureux, rassurant, qui nous permettait de caresser l'espoir de rencontrer son prochain plan cul ou son prochain plan cœur. Ces petits textes courts décrivaient par le menu ce que nous recherchons dans notre partenaire idéal.
Les lecteurs et les lectrices des magazines pouvaient alors contacter les autrices des petits encarts. On laissait son numéro de téléphone, son adresse, son code postal, et l'univers décidait si l'être aimé allait venir vers vous. Ou pas. Les petites annonces, en fait, ça vient parler d'autres temps, d'autres pratiques, de rencontres beaucoup moins directes. Du plaisir de l'attente, du frémissement devant sa boîte aux lettres pour voir si quelqu'un avait répondu. Les petites annonces racontent aussi, bien sûr, des histoires de solitude, de réponses qui n'arrivent jamais. Elles font parfois aussi écho à la manière dont nous envisageons nos réseaux de rencontres actuels. Car déjà à l'époque, pullulaient les annonces Mask for Mask, No Femme et Discret Only.
Ça nous parle aussi de la désespérante vacuité émotionnelle contenue dans les recherches pédales et de la tout aussi récurrente recherche de romantisme fleur bleue des Gwyn et de leur envie d'emménager avec toi au deuxième date. Bon, blague à part, ce qu'on trouve dans les petites annonces des années 80 jusqu'au début des années 2000, période à partir de laquelle la pratique des petites annonces va décliner et progressivement se faner, c'est le continuum des archétypes qui, si ce n'est façonne, tout du moins perpétue une certaine idée des identités de genre et de la construction du désir ou des attentes romantiques qui en découlent.
Voici donc un petit florilège, un bouquet de nos meilleures sélections glanées dans les cartons de mémoire des sexualités. Vous pouvez bien sûr les consulter vous-même lors des permanences dont les horaires sont consultables sur la page Instagram de l'association, mais aussi renseignés dans la mailing list mensuelle.
Bonne écoute. Les plus beaux mecs se rencontrent chez Homonyme, votre agence de petites annonces de rencontres. Branchez les plus beaux mecs du lundi au vendredi, de 19h à 21h, au 021 376 721. Case postale 5, CH 1018, Lausanne 18, téléphone 021 376 721.
À Sylvie. 92 avec toi et mes désirs jusqu'à l'éternité. Cultivons ensemble les laitues de l'amour. Une flamme pour toi qui me brûle le cœur. Bonne année 92. Bon anniversaire, bisous. Béa.
47-69. Où sont-ils mes copains ? Asiatique à Paris, ayant deux côtés opposés, cherche soit des mecs vicieux qui aiment partouz, cockring, poppers et best hard, soit des hommes distingués qui aiment tous les hobbies intellectuels, entre 30-50 ans. Bon baiser, vêtu de cuir et de jean, qui sait porter aussi la tenue de soirée, s'il existait, je serais heureux. Moi, 1m75, 60 kg, 36 ans, actif, passif. Con et sale type, s'abstenir. Paris et région parisienne.
Petites annonces, sud-ouest. M'épanouis près des Pyrénées, sereine et active. Accueil dans ma tanière, ours voluptueuse, œil vif, pattes câlines et cœur tendre pour séjour long et douillé. 36 printemps, ref, R31-016.
Rhône-Alpes et plus. Grosse poularde très enlardée, 50 ans, recherche petite fée pour la dégraisser et lui redonner autres appétits. Y a-t-il une femme suffisamment intelligente et sensuelle, sensible pour préférer contenu au contenant ? Amitié bienvenue. Ref, R36-009.
À 53, femme noire. Où sommes-nous, femmes noires, dans les productions de femmes ? Quelles images ? Quelle visibilité ? Nous, lesbiennes noires, aimerions en discuter avec vous, femmes noires, lesbiennes ou non.
Institut David Relax, soins corporels, massage, UVA, sauna. Frédéric et Patrick vous reçoivent tous les jours de 9h30 à 20h, même le dimanche de 13h à 20h. Sans rendez-vous, cadre discret, assuré, à 20 mètres de la place Clichy. Téléphone 04 43 87 19 90.
Divers. Cherche future maman. Homo parisien quarantaine cherche une femme ou un couple de femmes pour un projet de coparentalité, afin d'avoir un ou plusieurs enfants. Je suis célibataire, sportif, tolérant et ouvert d'esprit et cadre dans la fonction publique. Rencontrons-nous autour d'un verre. À bientôt de vous lire. Ref, R31-024.
Karaté, L'association Mytilène Karaté, créée et gérée par et pour des lesbiennes, vous attend à ses entraînements les mardis et vendredis, 20h-21h30, et les samedis de 18h-19h30. Le premier cours est gratuit. Prix des cours, 250 francs par mois, 200 francs pour les étudiantes et chômeuses, ou 300 francs pour 10 cours. Les entraînements se déroulent au 13 rue Malebranche, au fond de la cour, à Paris, dans le 5e. RER Luxembourg, métro Odéon, Saint-Michel, tel 69 00 51 98.
Témoignages, conseils, coups de gueule, notre boîte aux lettres vous est ouverte. Les éditions Lydienne, courrier lectrice, 128 rue du Faubourg de Douai, 59 000 Lille. Ou sur mag@ladixièmemuse.com.
Réponse au témoignage d'Anne de Paris, je suis lesbienne et féminine. Je viens de lire ton coup de gueule dans notre bien-aimé magazine. Et crois-moi que je suis assez choquée. Car s'il y a bien une chose que les gays détestent, ce sont les discriminations. Mais alors, quand ce sont des lesbiennes qui jouent la discrimination envers une femme de plus, alors là, pour moi, c'est du jamais vu. Je ne sais pas si le changement de région, de pays, de culture y est pour quelque chose. Mais pour moi, ces réactions ne sont que de la peur. Combien d'entre nous se sont pris un râteau ? Sujet qui fait mal, ne nous attardons pas. Combien d'entre nous ont flashé sur une hétéro ? Et surtout, à quel point détestons-nous nous retrouver dans notre fief du week-end à essayer de draguer cette fille canon qui vous dira trois verres plus tard, à vos frais ? Désolée, mais je suis 100% hétéro. Je pense que c'est ça qui fait peur à nos chères consoeurs. Mais aller jusqu'à refuser l'entrée d'une boîte parce que tu ne colles pas au profil de la soirée, là c'est grave. Jamais à Metz cela n'est arrivé. Et j'espère sincèrement que cela n'arrivera jamais. Car perdre les lesbiennes féminines, c'est assurer ma mort. Et celle de beaucoup d'autres, je pense. En conclusion, les meufs, ne commencez pas à trier, car là, on deviendrait bien pire que les homophobes, croyez-moi. Aimons-nous les unes les autres, on ne demande que ça. Bien à vous, Christelle de Metz.
Vous souvenez-vous ? Atlantique, Nelly, Silène, Cille et les autres. Elle semait des mots d'amour, de haine, la passion, l'amitié, la consolation. Il y a déjà quelques années. Et puis le silence. 36-15, elle sème, revient. Comme le sphinx renaissant, grandit de ses cendres pour consumer le dialogue, le rêve, la rencontre, l'amour. 36-15, elle sème, entre elles.
Elle sème, c'était donc la fin des petites annonces. Pour un petit peu plus de précision, elles ont été glanées, ces petites annonces, dans différents magazines qu'on peut trouver au sein du local de mémoire des sexualités. Elles sont donc issues du magazine Gay Pied de 1986, Lesbia de 1992 et du magazine Muse pour toutes les Gwyn Millennials d'avril-mai 2008 et janvier-mars 2009. Voilà, c'est consultable toujours au local de mémoire des sexualités, si jamais.
Ah bah c'est super parce que j'avais trop peur à l'époque de regarder Muse chez le marchand de journaux. J'étais tout rouge et je voulais surtout pas qu'on me voit en train de regarder ça. Donc ouais. C'est peut-être l'occasion d'y regarder
c'est
maintenant.
C'est l'occasion de la revanche, bien sûr.
Et d'ailleurs, on va commencer l'agenda par donner les horaires des permanences à mémoire des sexualités. Voilà. Transition tuilée.
C'est beau, c'est beau.
Donc, le 18 avril de 14h à 17h, le 25 avril, toujours de 14h à 17h, et le 24 avril de 10h à 13h, oups, pas dans l'ordre, vous pourrez assister, venir participer aux permanences d'accueil et de consultation des archives et de la documentation de mémoire des sexualités au 52 rue d'Aix. Tous les lundis, le 22 avril et le 23 avril, de 18h à 20h, atelier d'écriture en accès libre. Mais aussi, toujours à mémoire des sexualités, des ateliers d'inventaire collectif des fonds documentaires de la bibliothèque de mémoire des sexualités. Donc vous pouvez y assister, être formé aux outils de catalogage sur place. Et ces ateliers se dérouleront, mes notes sont illisibles, le 23 et le 30 avril de 10h à 13h. On redonne la date de la cérémonie d'hommage aux victimes de la déportation le 28 avril à 9h, place du 23 janvier 1943. D'autres dates ? Ou je continue à
enchaîner.
Ah, tu
peux continuer, tu peux savoir si on en avait. Nous, ben, je voyais tout à l'heure...
T'avais un truc, toi.
Ouais, c'est ça. Au sujet de la loi transphobe concernant les mineurs trans qui est en train de se préparer au sein de l'État, il y a un appel à se rencontrer donc demain, le 18 avril, à 19h30, 81, rue Consola, pour s'organiser contre donc ces projets de loi transphobe. Il n'y a pas de non-mixité particulière pour cette première réunion. Donc manifestement, les personnes cis alliées sont bienvenues pour donner de la force.
Tu nous as donné l'heure ?
19h30. 81 rue Consola.
Ah, ça se chevauche avec, à 20h au centre LGBT, une scène ouverte et des lectures queer en entrée libre, où vous pourrez lire un poème de votre plume, tout style et sujet confondu.
On vous laissera choisir à quel événement vous rendre.
D'autres événements, peut-être ? Vous voulez mettre en avant ?
J'ai l'impression que c'est nous l'événement aujourd'hui.
Bah. Non, là, comme ça, j'ai rien qui vient. Mais...
Moi, je voudrais parler du 20 avril à 20h aux ateliers Jeanne Barré, la résidence Bicharada de Bruta, avec Selva González, Gloria Admirable, Léon Haït, je sais pas le lire, et Sucré Saleté, une performance qui s'adresse à la violence institutionnelle et celle qui se traduit dans les expressions, les regards et les jugements envers les corps trans, racisés et poilus. Cette performance pour public averti adresse la question de comment les regards essentialisent des corps et d'autres les acceptent. Les billets sont à 5€ minimum en soutien et pour la rémunération des artistes trans et ou racisés et sont disponibles sur le SOAS, sur le Hello Asso, bien sûr, Bicharada, B-I-X-A-R-A-D-A.
Merci.
Excellent, merci pour cet agenda. Eh bien, voilà, hein, ça va être bientôt...
La fin de ce moment,
tout à fait, avec une dernière top 50
la
de ta
top 50
de ta vieille tante.
La top 50 de ta vieille tante.
La top 50 de ta vieille tante.
Vous aurez eu droit à tout aujourd'hui.
Peut-être qu'on introduit la musique maintenant, du coup.
La top 50 de ta vieille tante.
Mais c'est beau cette autogestion en technique.
C'est organique.
C'est merci, DIY, merci. C'est beau.
C'est ça. On crée les archives de demain en ce moment même, en direct.
Et quelles archives.
Alors, pour cette dernière top 50 de ta vieille tante, j'ai choisi également un morceau quand même plus ou moins récent du groupe, du duo Light Asylum. C'est un morceau qui s'appelle Dark Lies et ça date de 2011. Donc c'est un duo électro Dark Wave Synth Wave, donc avec beaucoup de synthétiseurs, vous l'aurez compris. Et ça vient de Brooklyn à New York. Et la chanteuse Shannon Funches, je suis pas sûr de la prononciation de Funches, peut-être c'est Funches, je ne sais pas. Elle est connue pour ses performances scéniques et aussi parce qu'elle revendique haut et fort son identité Gwyn afro-américaine. Et dans le clip de cette chanson, que je vous conseille fortement, elle cultive un look très butch queer BDSM. Avec genre la tête rasée, des tatouages et tout ça, une casquette en cuir, enfin c'est super. Et quand elle parlait un peu de sa relation à sa musique, et elle expliquait que ben, souvent leur public est beaucoup, beaucoup plus jeune que eux, que leur duo. Et elle disait qu'en fait, l'idée derrière leur musique, c'était de recréer une musique qui ressemblait à celle qu'elle allait écouter à 13 ans quand elle faisait le mur pour aller dans un club, dans une discothèque en douce comme ça, sans que sa famille le sache. Mais elle dit que le problème, c'est que maintenant, encore une fois, ben, c'est très compliqué de trouver des discothèques où rentrer, aux États-Unis notamment, quand t'as moins de 21 ans, parce que bon, là-bas, ils contrôlent beaucoup les cartes d'identité, bon, il faut faire une fausse, tout ça, bon, c'est pas forcément évident. Et donc, elle a un peu envie de transmettre ça aux autres générations aussi, cette vibe un peu de club de dance music de l'époque. Voilà, on va s'écouter ça et on vous fait des gros poutous.
Allez là.
Comme on disait en 1985. Et on
grosse
se voit
bise.
La prochaine fois.
Bisous de Voral.
Voral.
Voral.